Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre, nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Ce soir, une loi peut-elle créer de l'emploi ? Cette semaine encore, la loi travail va occuper beaucoup d'espace. Le texte arrive en commission demain à l'Assemblée nationale, les amendements se comptent déjà par dizaines, et ce n'est qu'un début, semble-t-il, en attendant l'examen en séance publique début mai. D'ici là, le texte aura encore eu le temps d'évoluer. Le gouvernement se dit prêt désormais à étudier les propositions des organisations de jeunesse, en particulier celle de l'UNEF, qui reste mobilisée contre le projet. Demain, nouvelle journée d'action dans toute la France, puis rebelote samedi, cette fois avec les organisations de salariés. En parallèle, l'occupation nocturne de la place de la République se poursuit. Le mouvement Nuit Debout, qui en était hier à son quatrième jour consécutif de mobilisation, entend capitaliser sur la contestation de la loi El Khomri pour faire émerger un équivalent des indignés espagnols. Alors à ce stade de la compétition, il n'est peut-être pas inutile de rappeler les raisons qui ont poussé le gouvernement à vouloir modifier la loi. Cette réforme a pour but, peut-on lire sur le site du ministère du Travail, de renforcer la compétitivité de l'économie et de développer l'emploi. Mais sur ce dernier point, tous les économistes, tous les acteurs du monde social ne sont pas d'accord, ni sur les dispositifs envisagés, ni même sur la capacité du droit du travail à avoir un effet direct sur l'activité. Alors une loi peut-elle créer de l'emploi ? C'est notre sujet du jour. Et pour en discuter, quatre invités ce soir. Jean-Pierre Crouzet, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le président de l'UPA, l'Union Professionnelle Artisanale, qui est une des trois organisations patronales représentatives avec le MEDEF et la CGPME. Sur votre site, on peut lire « Projet de loi de travail, c'est avec nos entreprises que la bataille de l'emploi se gagnera ». Donc vous mettiez bien l'emploi au cœur de ce projet. Pour discuter avec vous, Franck Micula, bonsoir.
Bonsoir.
Secrétaire national de la CFE-CGC, qui est le syndicat des cadres, syndicat qui est opposé à la loi travail en l'état actuel et qui appelle à se rassembler au moment de la discussion au Parlement, à se rassembler à proximité de l'Assemblée nationale. Ce sera début mai.
Le 2 mai précisément.
Et pour discuter avec vous deux économistes, Christine Herel, bonsoir.
Bonsoir.
Maître de conférence à l'Université Paris 1, vous êtes chercheuse au Centre d'études de l'emploi, co-signataire d'une tribune, c'était le 8 mars dans le journal Le Monde, intitulé « La loi travail ne réduira pas le chômage ». Vous l'avez signé avec une vingtaine d'autres personnes. Et cette tribune répondait à une autre tribune publiée quelques jours plus tôt et dont nous avons un des co-signataires, en la personne de Marc Ferracci. Bonsoir.
Bonsoir.
Tribune intitulée, alors toujours dans le même journal, « Le projet de loi El Khomri représente une avancée pour les plus fragiles ». Là, c'est avec une trentaine d'économistes. Marc Ferracci, vous enseignez à l'université Panthéon Assas et vous êtes spécialiste du marché du travail. Alors Jean-Pierre Crouzet, c'est à vous que je voulais adresser la première question. Est-ce que vous considérez, vous, que le droit du travail a un impact direct sur la capacité des entreprises à embaucher ?
Oui, j'en suis persuadé en ce qui concerne nos entreprises en particulier. Alors, bien évidemment,
Vous dites nos entreprises, ce sont les petites entreprises.
Ce sont les 1,3 million entreprises que je représente en tant que telles. Donc, et je dirais qu'on pourrait y associer également les professions libérales et l'économie sociale et solidaire. Nous sommes tous dans la même philosophie. Alors, il est bien évident que pour créer de l'emploi, faut-il qu'il y ait de l'activité, faut-il qu'il y ait de la confiance. Et il faut que tout ça repose sur quelque chose qui est simple, qui est un code du travail lisible, compréhensible par tous. Aujourd'hui, et nous venons de faire une enquête par Harris en particulier, 85% des chefs d'entreprise ne veulent pas embaucher. C'est la roulette russe d'embaucher quelqu'un aujourd'hui. Alors, on pourra le développer, les raisons qui amènent justement à cette prudence. Un autre constat, c'est que le comité de l'orientation à l'emploi dénombre aujourd'hui plus de 300 000 emplois non pourvus. On sait que ce sont dans nos entreprises. Nous souffrons d'un manque de gens qualifiés. Nous souffrons d'un déficit qui n'est pas un entraînement pour développer de l'économie. Donc, il y a deux points. Il y a ce manque aujourd'hui de compétences professionnelles et puis la rigidité d'un code du travail aujourd'hui qui n'est pas lisible pour la plupart de nos entreprises.
Donc avec un code du travail moins rigide et plus lisible, pour vous Jean-Pierre Crouzet, on pourrait créer de l'emploi. Franck Micula, quelque chose me dit que vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec ça, simplement parce que j'ai vu que vous étiez exprimé il y a quelques jours devant la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale et vous disiez ceci notamment, il n'y a pas de lien entre le chômage et le droit social, si c'était le cas, il y a belle lurette qu'il n'y aurait plus de chômage en France.
Oui, effectivement, parce qu'on a en France, depuis très longtemps, flexibilisé, assoupli, simplifié le code du travail. Enfin, quand je dis simplifié, un certain nombre de procédures, mais on en a complexifié bien d'autres. À chaque fois qu'on fait une loi sur le sujet, on ajoute 10 pages, 15 pages ou 20 pages. La dernière en date, c'est la loi Macron qui a dû, au prétexte du développement de l'emploi, on a rajouté 10 pages et complexifié encore le Code du travail. Donc je crois qu'il n'y a pas de lien direct. Ça ne veut pas dire qu'on peut faire n'importe quoi avec le Code du travail. Faut pas se tromper non plus. Mais je crois qu'il n'y a pas de lien entre assouplissement et flexibilisation et création d'emplois. Parce que le point central, le moteur de la machine, c'est l'économie. Et pour traiter, et là vous l'avez dit en préambule, pour traiter ce problème de compétitivité de l'emploi, du pays, on s'appuie sur un seul code, qu'on utilise comme victime expiatoire, c'est le code du travail. Il y en a bien d'autres qui favorisent ou pas la compétitivité de notre pays, les impôts, la fiscalité, donc le code de l'environnement, le code du commerce. Pourquoi ne parle-t-on pas de la complexité de tous ces codes qui sont des freins, éventuellement, au développement de l'emploi ?
En tout cas, vous dites absence de lien direct. C'est ce que vous évoquez, d'ailleurs, dans la tribune que vous avez co-signée, Christine Harel. Les études, dites-vous, économiques qui sont faites, prouvent qu'on ne peut rien prouver, justement, en la matière, c'est ça ?
Oui, alors en se plaçant au niveau global, donc c'est pas forcément contradictoire avec ce qui a été dit auparavant, c'est-à-dire que ça ne veut pas dire qu'il y aura aucun effet sur certaines catégories d'entreprises. Ça peut très bien y avoir un effet favorable plutôt pour les petites entreprises, par exemple. Mais ce que montrent les études existantes à l'échelon donc de l'ensemble de l'économie, c'est que globalement, on ne trouve pas de lien significatif, de lien clair entre donc le niveau de protection de l'emploi et les questions, enfin le niveau de l'emploi ou le niveau du chômage. Donc ça, ce sont des études qui sont faites sur des données, par exemple, de l'OCDE, donc à l'échelon macroéconomique. Maintenant, encore une fois, ça ne contredit pas nécessairement l'idée qu'il puisse y avoir des effets à l'intérieur du pays sur certaines catégories particulières d'entreprises.
Sur cette question, Marc Ferracci ?
Oui, d'abord, je vais abonder dans le sens de M. Mikula. Effectivement, tous les problèmes de l'emploi en France ne se résument pas au problème du droit du travail. Il y a des problèmes sur le marché du logement, il y a des problèmes liés au code du commerce, quand on s'intéresse par exemple aux défaillances d'entreprise. Maintenant, pour répondre à cette question qui est très ardue, lien entre droit du travail et emploi, je pense effectivement qu'il faut aller vers les données statistiques, il faut aller vers des évaluations qui soient rigoureuses, c'est-à-dire qui fassent l'effort de construire un véritable contrefactuel, c'est-à-dire de se demander qu'aurait été la situation de l'économie si on n'avait pas changé la loi sur un point ou sur un autre. Et à ce titre, je pense que je vais un petit peu contredire ce que dit Christine Herel sur l'effet que peut avoir la protection de l'emploi. Il y a des données effectivement macroéconomiques et des évaluations macroéconomiques qui cherchent à mettre en relation un indicateur de protection de l'emploi qui est créé par l'OCDE, qui agrège beaucoup de choses. C'est les indemnités de licenciement, c'est la durée des procédures, c'est beaucoup d'éléments un petit peu disparates, et on essaie de mettre ça en relation avec le taux de chômage. Effectivement, on se rejoint là-dessus, ces études ne sont pas concluantes, elles n'aboutissent pas à dire qu'il y a un lien significatif entre protection de l'emploi et chômage. Mais ce qu'on sait, c'est qu'en réalité, il y a beaucoup d'autres éléments qui peuvent influer sur le taux de chômage, et il se trouve que des études plus microéconomiques, sur des pays particuliers, sur des secteurs parfois d'activité particuliers, montrent qu'il peut y avoir un effet, alors pas forcément sur le niveau de l'emploi, c'est-à-dire concrètement, si on flexibilise, on sait que ça va commencer par détruire des emplois et ensuite peut-être que ça en créera. Et l'effet sur le niveau de l'emploi n'est pas forcément évident. En revanche, il y a des effets, et là les études microéconomiques sont assez convergentes, sur ce qu'on appelle la segmentation du marché du travail, c'est-à-dire sur la réduction de la précarité. En France, on a un droit du travail qui est finalement assez protecteur pour les gens qui ont un emploi. Et on a un développement des contrats courts qui est très spectaculaire depuis maintenant une dizaine d'années. Ce que l'on a défendu avec la tribune des économistes que j'ai co-signée, c'est pas l'idée que la loi El Khomri allait réduire le chômage, c'est l'idée qu'elle allait réduire la segmentation et la précarité. Et ça, c'est très différent.
Jean-Pierre Crozet, est-ce que vous diriez qu'il y a aujourd'hui dans le droit du travail un excès peut-être de protection des salariés qui sont déjà en poste et qui empêchent l'arrivée dans le monde du travail de nouveaux salariés ?
Je ne suis pas sûr qu'il y ait un excès de protection. Ce dont il faut bien réfléchir, c'est l'aspect de la fiscalité vis-à-vis de nos entreprises. Nos entreprises ne sont pas des sociétés, n'ont pas de fonds propres et ont très peu de trésorerie. Or, le moindre litige, prud'homal en particulier, fait que l'entreprise met la clé sous la porte. Pourquoi ? Parce qu'elle n'a pas pu faire de provision, elle n'a pas la trésorerie pour répondre sur un éventuel litige. Alors, je ne veux pas aller trop loin, mais sur un litige prud'homal et sur un défaut de procédure, on n'examine pas le fond, on n'examine que la forme. Donc, et la forme l'emporte sur le fond. D'où la condamnation. Et d'où la réticence de nos chefs d'entreprise à employer aujourd'hui des salariés et à développer, parce qu'ils n'ont pas les personnes compétentes, il n'y a pas de DRH, il n'y a pas de juristes qui peuvent effectivement apporter cet accompagnement lors d'un litige avec un salarié.
Mais ça veut dire que pour vous, par exemple, la peur d'une trop forte judiciarisation d'un éventuel licenciement est un frein à l'embauche ?
Ah, c'est incontestable. C'est aujourd'hui, lorsqu'on en interroge les chefs d'entreprise, les 1,3 million chefs d'entreprise qui l'on représente, la première raison, c'est effectivement la crainte prud'homale et, je disais tout à l'heure, la roulette russe derrière, parce que les chefs d'entreprise sont incapables de répondre à des indemnités à verser.
Bon, alors Christine Herel, qu'est-ce que vous pensez de cet argument qui fait dire que, effectivement, voilà, que certains chefs d'entreprise ont une crainte de ce qui peut leur arriver ensuite, et donc plutôt que de se retrouver dans une situation où ça va leur coûter extrêmement cher, ou en plus dans une situation très incertaine, ils préfèrent ne pas embaucher.
Cet argument est tout à fait audible et existe effectivement dans la plupart des études économiques. La question, c'est de savoir quelle est la somme. On va avoir deux effets, en fait, quand on réduit la protection de l'emploi. On va avoir un effet effectivement plutôt favorable en termes de création d'emplois, c'est-à-dire que les entreprises, anticipant de plus faibles coûts de licenciement, peuvent effectivement se mettre à créer plus d'emplois. Mais on peut aussi avoir un effet de destruction des emplois. Et donc, c'est la somme des deux qui, ensuite, fait l'effet global sur l'emploi. Et c'est là-dessus qu'on a une incertitude. Quel que soit le type d'étude qu'on utilise au niveau macro, comme au niveau microéconomique, on va montrer aussi des effets contradictoires. Je pense que c'est là-dessus ensuite qu'on n'est pas complètement d'accord avec M. Ferracci. Mais
il peut y avoir simultanément des entreprises qui réagissent de manière différente par rapport à un assouplissement, par exemple, des règles de licenciement.
Il faudra tenir compte du contexte. Tout ça va dépendre de la conjoncture. C'est-à-dire que dans une période de ralentissement d'activité, dans la période de la crise, par exemple en 2008, ce qu'on a vu en Europe, c'est que les pays dans lesquels le niveau de protection de l'emploi était relativement élevé, dont fait partie la France, sont des pays aussi qui ont moins détruit d'emplois que d'autres, parce que donc la protection de l'emploi joue dans ce cas-là un rôle d'amortisseur, en fait, dans ces périodes de conjoncture défavorable. Donc toute la question, c'est la somme de ces effets contradictoires qu'on va observer selon le type de conjoncture et aussi ensuite donc selon le type d'entreprise.
Franck Micula, quand vous entendez un patron dire bah voilà, moi je n'embauche pas parce que j'ai peur que si un jour je dois licencier, je me retrouve avec de très fortes indemnités à payer et par ailleurs en plus avec des conditions de licenciement économique qui sont pas très claires aujourd'hui dans le droit du travail. Est-ce que vous comprenez
cet argument ? Je comprends le sujet, ça, on n'y est pas insensible. Maintenant, la réponse, elle est longue. Et je vais essayer de ne pas répondre à la question. C'est-à-dire que, sur le sujet, moi, je propose plutôt qu'on, plutôt que de revenir sur les plafonds, prud'hommes, etc., de favoriser un truc qui marche moyennement bien, c'est la conciliation en matière prud'homale. Donc, s'il y a un volet qu'on devrait renforcer dans la loi El Khomri, c'est vraiment ce volet conciliation, lui mettre plus de moyens pour les juges prud'homaux, plus de formation, plus d'encadrement, plus de temps également, pour leur permettre d'exercer cette première fonction qui est la conciliation entre le salarié et son entreprise. On peut même imaginer
rassurer et le chef d'entreprise
exactement,
et le salarié.
Exactement. Pour ne pas partir dans une procédure qui va durer des mois, qui n'est bonne ni pour les uns ni pour les autres. Je suis pas du tout favorable à la flexibilisation du licenciement. On a en plus en France un certain nombre d'obligations qui tiennent aux conventions de l'OIT. Je crois que c'est la 158 ou 148 qui oblige à motiver le licenciement, ce qui est quand même pas invraisemblable. Mais ce qu'on devrait plutôt développer, c'est cet aspect conciliation. Et pourquoi pas même une incitation fiscale pour la conciliation, qui donnerait intérêt aux uns et aux autres à prendre un circuit court plutôt que de se lancer dans des procédures très longues et qui, j'insiste, vraiment ne font pas de bien aux salariés non plus.
Mais juste un mot, elle pourrait prendre quelle forme cette incitation fiscale ? C'est-à-dire ça serait et pour le salarié et pour l'entreprise ?
Ça serait pour le salarié qui l'inciterait à prendre plutôt la somme proposée au terme de la conciliation plutôt que faire le pari d'une procédure très longue, très coûteuse et très douloureuse.
Et une somme qui serait en partie défiscalisée, par exemple ?
Par exemple.
Qu'est-ce que vous pensez de cette proposition sur la table, Jean-Pierre Crouzet ?
Je ne suis pas opposé à la conciliation, bien évidemment, puisque j'allais dire, sans revenir sur le passé, elle se pratiquait beaucoup plus couramment il y a quelques années qu'aujourd'hui. Ce que je voulais signaler tout à l'heure, ce n'est pas qu'un salarié d'une TPE aujourd'hui doit être moins indemnisé que celui d'une grande entreprise si véritablement il y a un préjudice qui est causé. Mais pour autant, j'évoquais le point de la fiscalité. Parce qu'il est indispensable que l'ATP aujourd'hui puisse faire des provisions lorsqu'elle embauche quelqu'un en cas de litige. Si ces provisions ne sont pas utilisées, elles sont réinjectées, bien évidemment. Mais c'est impossible aujourd'hui d'honorer une indemnité vu qu'il n'y a pas de fonds propres et qu'il n'y a pas de trésorerie. C'était la raison pour laquelle ça passe, à mon avis, par une réflexion fiscale avant tout. Autrement, nous ne sortirons pas. Mais en aucun cas, c'était pour mettre des plafonds qui seraient inférieurs selon les entreprises. C'est absolument pas ça.
Alors Marc Ferracci, comparaison n'est pas raison, on a coutume de le dire, mais c'est quand même intéressant de voir aussi peut-être ce qui se passe à l'extérieur de nos frontières pour voir si des modifications, en tout cas du droit du travail, ont pu avoir des effets sur l'emploi. Dans la tribune qu'on évoquait, hein, donc vous avez co-signé de votre côté pour le journal Le Monde, vous évoquiez le cas de l'Espagne qui a pris une loi similaire, c'était en 2012, et écrivez-vous, vous êtes un collectif, je ne sais pas si c'est de votre plume précisément, mais en tout cas, 300 000 embauches en CDI ont été enregistrées l'année suivante.
Alors, effectivement, ça nous ramène au point que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire que le but d'une loi sur le travail aujourd'hui, ce devrait être d'abord, et on peut se poser la question pour la loi El Khomri, de réduire ce dualisme. Le fait d'être en CDD, ça génère, plus généralement en contrat court, ça génère des effets collatéraux sur votre vie quotidienne, sur votre accès au logement, sur votre accès au crédit, parfois sur votre vie de couple. Et de ce point de vue, je pense qu'on a besoin, de faire la pédagogie de mesures qui permettent de réduire le fossé entre les gens qui sont aujourd'hui en emploi stable. Ça ne veut pas dire qu'ils vivent bien. Ça peut aussi vouloir dire que ils sont dans des situations du point de vue salarial et des conditions de travail difficiles, mais ils sont quand même dans une situation plus favorable que ceux qui sont en contrat court. Et c'est pour ça qu'on a évoqué cet exemple espagnol. Alors maintenant, je reviens quand même sur la question de la méthode. La méthode, elle est très importante. Si on veut vraiment savoir si la loi est efficace, eh bien, il faut comparer des choses qui soient comparables. C'est-à-dire qu'il faut comparer des entreprises qui, placées dans des conditions parfaitement similaires, eh bien, réagissent à une modification de la loi. Je vous donne un exemple. En Italie, il y a quelques années de cela, on a modifié la protection de l'emploi, c'est-à-dire qu'on a accru les coûts de licenciement pour les entreprises au-delà d'un certain seuil, au-delà de 15 salariés. Et le fait de comparer les entreprises qui étaient juste en dessous du seuil et juste au-dessus du seuil, qui finalement étaient des entreprises parfaitement comparables, à 14 et à 16, vous êtes des entreprises comparables, a permis de tirer une conclusion sur l'effet, en l'occurrence, des coûts de licenciement, et donc finalement sur l'effet de la protection de l'emploi. C'est avec ce type d'évaluation qu'on va avancer, c'est avec ce type d'évaluation sur données microéconomiques qu'on va pouvoir apporter des réponses.
Donc ce que vous dites, c'est que par exemple la comparaison avec l'Espagne, il ne faut peut-être pas non plus l'avoir trop trop belle.
Tout à fait, il faut encore une fois collecter des preuves dans des contextes institutionnels différents, un seul exemple dans un seul pays ne doit pas amener à modifier une loi. Mais quand on commence à avoir des preuves issus de pays divers, avec des secteurs d'activité qui eux-mêmes varient, et ben là, on peut commencer à être un petit peu plus confiant sur l'impact que peut avoir la réforme de la loi. Et j'en termine simplement d'un mot. Le problème de cette réforme, de cette loi, c'est qu'elle est une réforme trop peu globale. Une vraie réforme aurait dû s'attaquer de manière conjointe et volontaire à la question de la formation professionnelle, à la question de l'assurance chômage qui va bientôt être sur la table, et à la question du contrat de travail. Et cette absence de vision globale, aujourd'hui, elle coûte beaucoup.
Et on va aller justement très vite dans un instant sur cette approche globale, mais simplement par rapport aux exemples, alors exemple espagnol, exemple allemand, c'est celui que vous prenez dans la tribune que vous co-signez également de votre côté, Christine Herrel, en disant, plutôt en contestant d'ailleurs l'exemple espagnol, en disant, regardez, si on voit ce qui se passe en Allemagne avec un droit du travail qui est plutôt plus protecteur que celui qui existe en France, ça n'a pas empêché l'économie allemande de particulièrement bien résister et d'avoir un niveau de chômage qui est moins important qu'en France.
Oui, alors si on est effectivement sur la question du niveau de l'emploi, du niveau du chômage, après effectivement sur la question du dualisme qui vient d'être évoqué, l'Allemagne est aussi un pays dans lequel on a un niveau de dualisme sur le marché du travail qui est assez important. Alors ensuite sur la manière dont on peut lutter contre ce dualisme sur le marché du travail, moi je reste quand même sceptique sur le fait que le contrat de travail puisse tout résoudre, parce que quand on regarde par exemple les pays anglo-saxons, on a effectivement un seul type de contrat de travail très flexible qui peut être rompu à l'initiative de l'employeur sans aucune difficulté, mais ça n'empêche pas le fait qu'on ait à la fois des contrats qui durent et des contrats qui sont des contrats très courts avec un taux de rotation très important. Donc ce dualisme, il existe quand même, même lorsqu'on a un contrat unique, entre guillemets, pour reprendre un parallèle avec des propositions qui ont été faites dans le contexte français. Alors ensuite, sinon, je suis complètement d'accord avec ce qui a été dit à la fin sur l'idée qu'on doit absolument raisonner dans un cadre plus global et que ne pas rester focalisé sur un point particulier du débat.
France Culture, du grain à moudre.
Hervé Gardette.
Une loi peut-elle créer de l'emploi? C'est la discussion que nous avons ce soir avec deux économistes, Christine Herel et Marc Ferracci, avec Jean-Pierre Crouzet qui préside l'Union professionnelle artisanale et Franck Micula, le secrétaire national de la CFE-CGC. Je vous voyais acquiescer tout à l'heure Franck Micula quand Marc Ferracci disait voilà, il faudrait avoir une approche beaucoup plus globale, c'est-à-dire est-ce qu'il faudrait que ça soit d'abord une approche législative et qui englobe quoi pour avoir comme objectif, puisque c'est la question qu'on pose ce soir, la création d'emplois ou la réduction du chômage, ou les deux évidemment qui vont ensemble.
Oui, là où j'acquiesçais, c'était justement quand Marc Ferracci expliquait qu'on ne pouvait pas regarder qu'un seul élément. Il citait l'exemple, c'était de l'Espagne, mais on pourrait prendre l'Italie, j'ai sous les yeux. Donc les chiffres des sommes qui sont données aux employeurs suite au Jobs Act, la première année, on leur verse 8000 euros. La deuxième année, avec ces nouvelles formes d'emploi, hein, de contrat, c'est 4000. Bon, on n'en est qu'au début de ce processus. Rien ne me dit qu'on ira à la troisième ou à la quatrième. Donc il est possible aussi que les contrats soient rompus à ce moment-là pour en prendre de nouveaux et toucher de nouvelles exonérations. Mais ça va dans le sens de ce qui vient d'être expliqué également, en disant que dans ces pays-là, on constate le même clivage entre les contrats courts, les contrats garantis, durée indéterminée, et ces lois-là n'ont rien résolu de ce point de vue-là. Donc ça veut dire que effectivement, je pense qu'on ne peut pas se contenter de dire je vais résoudre les problèmes d'emploi et de chômage en France en modifiant le code du travail. Il faut vraiment avoir une vision plus globale, y compris l'économie. Par exemple, il y a quelque chose qu'on pratique assez souvent dans le champ social, c'est le bilan des accords qui ont été négociés. Et voire même lorsqu'ils ont été repris par la loi. Et il y a eu, par exemple, en 2013, des accords, l'année de janvier 2013, l'accord national voilà. Interprofessionnel, qui a été repris dans la loi de sécurisation de l'emploi de juin 2013. Et lorsque, au début de l'année 2015, on a tenté d'en faire le bilan, je citerai juste un exemple, il y a eu la diminution du délai de prescription, puisqu'on était sur les prud'hommes tout à l'heure, qui passait de 5 ans à 3 ans, et on faisait le bilan.
Ouais, c'est-à-dire qu'un salarié pouvait se retourner contre son ancien employeur dans
parce
un délai...
Parce que ses salaires n'avaient pas été payés, voilà. Par exemple, et donc il était limité à 5 ans, de retour en arrière, maintenant c'est 3 ans. Et je demandais à la CGPME quel avait été l'impact en emploi, puisque ça avait été pris au nom de l'emploi. Et la réponse, c'est probablement aucun. En tout cas, moi, ça me coûte moins cher, me dit la représentante des entreprises. Donc on voit bien, il y a des tentatives à chaque fois pour l'emploi, mais ça ne se traduit pas par de nouveaux emplois.
Il faut d'ailleurs rappeler que l'accord national interprofessionnel avait d'abord été négocié par les partenaires sociaux, exactement. Même si pas signé par toutes les organisations syndicales, avant d'avoir une traduction législative. Sur la question, justement, de l'évaluation de l'efficacité des dispositifs législatifs, Jean-Pierre Crouzet, est-ce que vous considérez que c'est la bonne méthode? C'est-à-dire essayer de voir, OK, on prend des décisions, on prend des mesures, et puis on voit si ça crée de l'emploi ou pas. Je pense par exemple au pacte de compétitivité, où il y avait justement cette discussion entre OK, on donne aux chefs d'entreprise un certain nombre de possibilités et par contre en face il faut qu'il y ait des créations d'emplois. Si ça ne vient pas, il faudra peut-être revoir le dispositif. Est-ce que pour vous en tout cas ce serait une bonne méthode?
Oui, je pense que c'est une bonne méthode, mais je pense que la méthode urgente c'est de retrouver de la confiance. Nous n'avons pas de confiance aujourd'hui, d'où ce blocage que l'on peut constater. Moi je veux bien des accords. Je crois que, d'ailleurs, nous plaidons dans le cadre de nos entreprises sur les accords de branche en tant que tels, puisque nous savons que nos entreprises, par nature, ne peuvent pas passer sur ces accords-là, parce que c'est un risque énorme qui serait contre elles. Elles n'ont pas les moyens de droit pour véritablement faire des accords. Donc il faut développer ces accords de branche avec les partenaires sociaux. C'est quelque chose qui fonctionne bien. Il faut le développer pour le simplifier, encore une fois. Et je pense qu'à partir de là, on pourra effectivement créer de la confiance et de l'emploi.
Mais la confiance, elle vous est donnée par le cadre qu'offre la loi, ou bien est-ce qu'elle est pas davantage donnée par la conjoncture et par les politiques macroéconomiques qui sont menées, ou bien est-ce que vous dites, non, laissez les chefs d'entreprise faire de la politique économique, en gros, mais donnez-nous juste un cadre qui nous permette d'avoir confiance.
Non, mais donnez-nous un cadre aujourd'hui dans le cadre des partenaires sociaux pour les branches professionnelles. Nos entreprises, encore une fois, ne peuvent pas passer d'accord. Si je crois bien que l'année dernière, c'est 40 000 accords pour plus de 3 millions d'entreprises. Et encore, 40 000 accords, ça ne prouve pas que ce soit 40 000 entreprises. Hein, il y a eu plusieurs accords. Donc, c'est excessivement minime. Je crois qu'il faut bien comprendre le tissu d'entreprises dans notre pays, qui est à 99% des entreprises de moins de 50 salariés. Donc, je crois que, et à partir de là, je crois qu'il faut prendre conscience que c'est à travers les accords de branche qu'on pourra avancer et dans la confiance.
Marc Ferracci.
Alors, sur cette question, la confiance et du dialogue social, parce qu'une grande partie de la loi traite quand même du dialogue social et donne plus de poids à la négociation d'entreprise. Effectivement, je pense que on met peut-être un tout petit peu, avec cette loi, la charrue avant les bœufs. Pourquoi ? Parce que pour donner plus de poids au dialogue social en entreprise, encore faut-il qu'on négocie en entreprise déjà. Or, certains travaux d'économistes comme Thomas Breda, qui est d'ailleurs un signataire de la tribune de nos contradicteurs, donc je suis pas sectaire, ont montré que effectivement, dans à peu près 10% des entreprises, pas plus, on signe des accords aujourd'hui, soit parce qu'il n'y a pas de représentants du personnel, soit parce que quand il y a des représentants du personnel, on n'en signe pas. Donc, je pense qu'il faut effectivement, avant d'espérer en le dialogue social, et cette loi espère beaucoup dans le dialogue social, rétablir une forme de confiance entre les partenaires sociaux. Peut-être que ça passe effectivement par plus d'accords au niveau des branches, mais les accords de branches posent aussi des problèmes parce que ils génèrent parfois des difficultés pour les petites entreprises à suivre les prescriptions des accords qui sont parfois négociés par les représentants des grandes entreprises, et ça c'est aussi un problème. Mais fondamentalement, sur la question de la confiance, la France est très mal placée, toutes les études internationales le montrent, les relations sociales sont perçues comme dégradées. Les relations entre les représentants du personnel et l'encadrement sont aussi perçues comme dégradées par rapport à d'autres pays. Et Christine Hérel mentionnait la comparaison qu'on ne peut pas faire vis-à-vis de l'Allemagne. Effectivement, en Allemagne, on a des relations de confiance, on a une présence des salariés dans les conseils d'administration qui est beaucoup plus forte, qui est beaucoup plus assumée. Et de ce point de vue, on a finalement un système social qui se régule beaucoup plus de lui-même que ce ne pourrait être le cas aujourd'hui en France.
Franck Micula.
Oui, pour rebondir, je vais même aller plus loin que ce que vient de dire Jean-Pierre là, à l'instant, puisque je fais partie de ceux qui prônent une espèce de Small Business Act à la française pour les PME et pour les artisans. Parce qu'effectivement, je crois qu'on a un grave défaut en France. On est incapable de prendre soin de ces entreprises-là. Et c'est bien, comme il vient de le dire, par la négociation de branches, qu'on peut arriver à développer l'emploi dans et favoriser, je dirais plutôt que de développer, favoriser le développement de ces entreprises par le dialogue social au niveau de la branche. Mais ça, on a besoin de moyens supplémentaires, on a besoin de formation, d'un accompagnement. Il nous sera possible alors de négocier des accords types applicables dans les PME et dans les toutes petites entreprises, avec éventuellement même suprême luxe de raffinement, des curseurs adaptables par le chef d'entreprise en fonction de sa situation. Donc, tout ça, c'est possible. Au niveau de la branche, c'est exactement l'inverse de ce qu'était en train de faire la loi Myriam El Khomri, qui a tout renvoyé au niveau de l'entreprise à des endroits où il n'y a personne pour négocier.
Enfin, c'est pas très très clair, hein, d'ailleurs, aujourd'hui, ici, où si, on est justement la loi El Khomri sur est-ce que c'est au niveau de l'entreprise, est-ce que c'est au niveau des branches.
Si, pour... c'est une des ruptures principales créées par ce projet de loi, c'est d'externaliser le dialogue social dans l'entreprise, là où il n'y a pas de syndicat, là où il n'y a personne, il n'y a pas d'acteur.
Christine Hérel.
Oui, je suis d'accord que c'est une des difficultés principales avec cette loi qui inverse effectivement la logique en partant davantage de l'accord d'entreprise. Alors qu'en France, on a au départ un modèle social qui est quand même plutôt construit sur les accords de branche et la négociation de branche. Alors, pour revenir sur cette question de la négociation sociale, je pense qu'elle est tout à fait fondamentale. Bon, le cas de l'Allemagne qui vient d'être évoqué, c'en est un exemple, mais on en a aussi beaucoup d'autres, notamment les pays nordiques, dont on parle toujours comme de bons exemples de ce point de vue, mais c'est vrai que ce sont des pays où on a une vraie culture du dialogue entre les partenaires sociaux à différents échelons, à l'échelon national, mais aussi à des échelons plus locaux, y compris d'ailleurs en lien avec les politiques de l'emploi et leur mise en œuvre au niveau local. Donc en France, il me semble que ce qui manque aussi, ça rejoint la question des pénuries de main-d'œuvre que vous avez évoquée tout à l'heure, c'est aussi la possibilité de faire dialoguer à un échelon local des agences de l'emploi, par exemple des agences de Pôle emploi, des acteurs de la formation professionnelle, sociales et des entreprises, y compris et en particulier les petites et moyennes entreprises.
Et là, justement, on arrive à faire un lien entre bon niveau de dialogue social et bon niveau d'emploi ?
Bah, disons que c'est des échelons auxquels on peut plus facilement regarder sur le terrain donc les besoins des entreprises, les besoins en qualification par exemple, et réajuster l'offre de formation disponible. Et ça, c'est quelque chose qui, selon les exemples nordiques notamment, fonctionne bien. Et même en France, on a des régions qui ont pris des initiatives de bonne coordination autour de l'offre de formation, en mettant autour de la table les différents acteurs du côté de l'entreprise, du côté des partenaires sociaux et du côté des politiques publiques. Et c'est des exemples qui fonctionnent assez bien. On n'a pas d'évaluation quantitative de ça, mais c'est des exemples intéressants et qui donnent de bons résultats.
Jean-Pierre Crozet.
Oui, alors, vous savez qu'on est attaché aux ces accords de branche qui ont démontré, effectivement, les évolutions qu'on a pu apporter à l'entreprise. D'où ma question, aujourd'hui, qui est, où nous demandons le retrait de l'article 19 sur la représentativité patronale. Parce que celle-ci est complètement contraire à ce que l'avis du Conseil constitutionnel. On a vu arriver un 80-20 qui va faire que on va faire supprimer les branches professionnelles. C'est excessivement grave parce que d'un côté, on fait le constat que ça peut fonctionner, qu'il faut le développer et la loi va interdire aux branches professionnelles d'être représentées par cette représentativité patronale.
C'est complètement... C'est la représentativité patronale qui va donner la part belle, si j'ai bien compris, au MEDEF, c'est ça ?
Ah, c'est ça. Alors, je ne fais pas une fixation, je dis les entreprises... Non, mais j'ai toujours plaidé la complémentarité de nos entreprises dans notre pays. Mais pour autant... je dirais qu'il faut prendre conscience que cette représentativité, telle qu'elle est formulée aujourd'hui dans l'avant-projet de loi, elle est complètement contraire à l'intérêt des branches professionnelles. Donc, il faut savoir ce que l'on veut. Est-ce que l'on veut une négociation avec les partenaires sociaux pour développer l'emploi, la confiance dans nos entreprises, ou est-ce qu'on veut la supprimer ? C'est la question que je pose.
Bon, je suis presque étonné qu'à ce stade de la discussion, il n'y a encore personne, me semble-t-il, qui n'ait évoqué un des leviers dont on dit qu'il peut être utile ou pas en matière d'emploi et qui est inscrit dans la loi, c'est la durée du travail. Marc Ferracci, alors par exemple, prenons le cas des 35 heures. Alors, on va pas refaire un débat sur les 35 heures ce soir, mais il y a des études qui, semble-t-il, ont attesté qu'au début des 35 heures et pendant les 4 premières années de la mise en place de cette réduction du temps de travail, il y avait eu environ 350 000 emplois nouveaux qui avaient été créés. Ça sont les chiffres de la DARES, c'est-à-dire les chiffres du ministère du Travail. Est-ce que ça, c'est un levier législatif intéressant, justement, pour essayer de créer de l'emploi ?
Alors, il n'y a rien dans la loi qui vise à réduire le temps de travail. Hein. On est bien d'accord. Je vais faire une réponse, pour le coup, assez tranchée.
Ça irait presque plutôt dans le sens inverse.
Oui, plutôt dans l'inverse. Non, mais fondamentalement, là, je vais faire une réponse assez tranchée. Il n'y a aucune évaluation scientifique rigoureuse qui montre que la réduction du temps de travail en tant que telle, c'est-à-dire indépendamment des allègements de charges sociales qui vont avec et qui étaient dans les lois Aubry la contrepartie de la réduction du temps de travail. Il faut quand même s'en souvenir. Il n'y a aucune évaluation sérieuse qui montre que la réduction du temps de travail crée des emplois. Et les 350 000 emplois dont on parle à chaque fois sont issus d'une évaluation qui ne dit pas, contrairement à ce qui est professé partout, que la réduction du temps de travail en tant que telle créer de l'emploi.
Et est-ce qu'il y a des évaluations sérieuses qui disent autre chose ? Ou est-ce qu'il n'y a aucune évaluation sérieuse ?
Je vous donne un exemple, un travail de Francis Cramart et Thomas Philippon sur le passage de 40 à 39 heures au début des années 80, quand le gouvernement socialiste est arrivé. Là, il n'y avait pas de contrepartie en termes d'allègement de charges sociales. Du coup, on a pu regarder précisément ce qu'était l'effet de la réduction du temps de travail indépendamment de tout autre élément. Et concrètement, ça n'a pas abouti à créer des emplois, mais plutôt à en détruire, parce que ça renchérissait le coût du travail sans compensation. Donc, pour conclure, la réduction du temps de travail sans allègement de charges sociales, non, ça ne crée pas d'emplois. Si on allège des charges sociales en contrepartie, effectivement, il peut y avoir cet effet. Les dispositifs Aubry n'étaient pas uniquement des dispositifs qui réduisaient le temps de travail, c'était des dispositifs qui donnaient des contreparties aux entreprises. Ces contreparties se sont arrêtées au bout d'un certain temps, et les 350 000 emplois créés, on peut se demander si ils se sont poursuivis, justement, après la fin des allègements.
Quelle est la position de la CFE-CGC, Franck Micula, sur ce sujet ? Le temps d'emploi, la durée de travail pour les cadres, c'est un vrai sujet.
Hein. Oui, c'est un vrai sujet. Pour tout le monde, d'ailleurs. Les cadres font partie de ceux qui travaillent le plus, donc ils ne sont pas soumis à 35 heures. La plupart sont au forfait jour. Et si on multiplie même leur durée quotidienne par le nombre de jours travaillés dans l'année, ça dépasse clairement la Chine, hein, qui pourrait nous faire un procès en dumping social. Tellement il y a des cadres qui travaillent longtemps pendant toute l'année. Donc clairement, Moi, je pense qu'il faut sortir du raisonnement autour du seuil de déclenchement des heures sup. Aujourd'hui, on a considéré dans notre pays que la réduction de temps de travail, c'était l'abaissement du seuil de déclenchement des heures sup. Je pense que c'est pas la bonne méthode. Ce seuil-là n'est qu'un seuil de rémunération, rien de plus. Ça a posé tout un tas de problèmes dans beaucoup d'entreprises. Je pense qu'il y a d'autres pays qui ont considéré ce problème-là différemment. Je pense à, je sais plus lequel, mais en Europe du Nord, ce pays qui avait donné beaucoup d'argent aux gens pour qu'ils restent chez eux, qu'ils ne viennent pas travailler pendant un an, deux ans. Et ça leur permettait d'aller voyager, de faire des études, reprendre de la formation, faire de la formation professionnelle. Et puis, au fur et à mesure que ils ont été en recherche d'emploi, que ce pays cherchait des salariés, ils ont diminué le niveau d'indemnisation pour faire revenir les gens au travail. Bon, je dis pas que c'est ça qu'il faut faire. Je dis qu'il y a plein de méthodes pour considérer la durée du temps de travail. Il vaut mieux la considérer tout au long de la vie, avec des périodes pendant lesquelles on peut s'occuper de ses enfants, prendre soin de sa famille, se former, ne pas être au travail parce qu'on est en formation pendant un an, deux ans. Je pense que c'est un bien pour la société, un bien pour les individus. Au passage, je prends le pari qu'on créera de l'emploi, mais c'est pas simplement le seuil de déclenchement des heures supplémentaires. Les Allemands, par exemple, si vous regardez en Allemagne, alors là, je vais me lancer dans un terrain, c'est pas ma spécialité du tout. Si vous comparez sur les 10 dernières années, le nombre total d'heures travaillées par les Allemands, vous verrez qu'ils n'ont pas travaillé une heure de plus. La totalité des heures payées est rigoureusement identique sur les 10 dernières années. Cependant, ils ont fait travailler 4 ou 6 millions de personnes en plus.
Donc vous revenez finalement à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire plutôt que d'avoir des mesures purement techniques, il faut penser les choses de manière un petit peu globale. On est quasiment à la fin de l'émission. Christine Herrel, il y a quand même un point que je voudrais aborder avec vous, puisque c'était présent dans la tribune signée dans le Monde. Vous disiez, ce qui compte finalement, c'est moins que les modifications, on va dire, du droit du travail, c'est la politique macroéconomique, et notamment vous remettiez en cause la politique de réduction du déficit budgétaire, dont vous laissiez entendre que si une autre politique budgétaire avait été menée, on n'en serait peut-être pas là au niveau du chômage.
Oui, alors ça, je pense que c'est quelque chose qui vaut non pas à l'échelon français, mais plutôt à l'échelon européen. Ça, c'est la politique budgétaire telle qu'elle a pu donc du coup être conduite dans l'ensemble des pays européens, qui amène à une situation globale de faible croissance aujourd'hui. Et donc oui, tout à fait. Je pense que cette dimension macroéconomique, elle est fondamentale dans la trajectoire en matière d'emploi et de chômage, et qu'ensuite tous les dispositifs qu'on peut prendre de politique de l'emploi, de réforme du marché du travail, peuvent jouer simplement ensuite, peut-être, c'est ce qu'on peut espérer parfois, sur la rapidité des créations d'emplois, mais c'est tout.
Mais en tout cas, c'est pas le droit du travail qui crée de la croissance.
Non.
Marc Ferracci.
Alors, je pense que le droit du travail, s'il permet une réallocation plus importante des emplois depuis les activités les moins productives vers les activités les plus productives et facteur de gain de productivité. Là aussi, il y a des évaluations. J'en ai une en tête de quelqu'un qui s'appelle Richard Duhautois avec Bruno Crépon. D'ailleurs, c'était pas Thomas Philippon tout à l'heure, mais Bruno Crépon sur l'évaluation des 39 heures, pour éviter de me faire vilipender. Fondamentalement, néanmoins, je suis d'accord avec Christine Herrel. Il y a un problème de politique macro, il y a un problème de demande. Des gens qui ne sont pas rangés parmi les signataires de votre tribune, Olivier Blanchard, par exemple, ex-chief économiste du MIT, l'a dit, l'a écrit. Maintenant, il faut quand même être conscient d'une chose, c'est que, quand bien même on mènerait une politique très volontariste, si même on avait mené une politique beaucoup plus volontariste en termes de dépenses budgétaires pour pallier la crise de 2008...
Ouais, donc de forts investissements, par exemple.
On ne serait pas redescendu, parce qu'on n'est pas redescendu depuis 30 ans, en dessous d'un étiage de chômage à 8%. Donc, à un moment, il faut accepter l'idée qu'il y a une dimension structurelle du chômage qui ne peut pas se résoudre uniquement avec la politique macroéconomique conjoncturelle. Elle est utile, à fortiori quand il y a une crise, et là, j'adhère totalement à ce qui a été dit, mais néanmoins, ça n'est pas suffisant pour combattre cette dimension structurelle.
Ce qui explique sans doute le nombre très important aussi de dispositifs d'aide à l'emploi, d'emploi aidé, pour justement essayer de proposer des formes de garde-fous face au chômage, pardonnez-moi. Merci beaucoup, en tout cas, tous les quatre d'avoir participé à cette discussion. J'ai un petit peu de mal à conclure ce soir. Je sais pas si ça se passe toujours aussi bien lors des négociations entre organisations patronales et organisations syndicales.
Si vous le voulez bien, j'aimerais bien corriger une bêtise que j'ai dite.
Franck Michel, vite.
Le rassemblement auquel nous
appelons,
c'est le 3 mai. Et j'ai dit le 2, donc c'était une erreur.
Voilà, vous aviez un petit peu d'avance finalement, mais bon, c'est le 3 mai. Merci en tout cas à tous les quatre, Jean-Pierre Crouzet, Marc Ferracci, Franck Micula et Christine Herrel d'avoir participé à cette discussion. Vous pouvez retrouver sur notre site franceculture.fr, la page du Grand Moutre, toutes les émissions que nous avons consacrées depuis depuis plusieurs mois ces questions liées au marché du travail. Un grand merci également à toute l'équipe du Grain, Cyril Baer, Fanny Richer, Mathilde Barbier, Antoine Tricot, Hugo Florent. Émission réalisée par Véronique Villa avec à la prise de son Clément Batté. Demain, à quoi servent les révélations sur les paradis fiscaux ? Tout de suite, c'est Ping Pong, Mathilde et Martin. Bonsoir à tous les deux.